Vous écoutez France Culture. Tout de suite, c'est le journal de Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et nous analyserons tout d'abord ce nouveau coup dur pour les socialistes. Ce matin, le député européen Emmanuel Morel a annoncé son départ du PS avec une partie de l'aile gauche du parti pour se rapprocher de la France insoumise.
Près d'un quart de siècle après les tours amiantées de Jussieu, le combat continue.
Une manifestation est organisée cet après-midi à Paris à l'appel de l'Association nationale des victimes de l'amiante.
Comme attendu, l'Organisation internationale de la francophonie a nommé aujourd'hui à sa tête la ministre rwandaise des Affaires étrangères.
Mushikiwabo, et ce en dépit donc des nombreuses critiques qui s'étaient élevées contre cette nomination. Un tribunal turc doit statuer aujourd'hui sur la libération au nom du pasteur américain Andrew Brunson, dont la détention puis l'assignation à résidence en Turquie sont au cœur d'une grave crise entre Ankara et Washington. Le général Franco sera-t-il inhumé dans la cathédrale de Madrid? Sa famille a fait savoir qu'elle comptait l'enterrer dans la crypte de l'édifice en plein cœur de la capitale. Enfin, invité aujourd'hui de la page Europe à 3 jours d'élections régionales crucial en Bavière, Joe Leinen, député allemand, membre du Parti social-démocrate SPD. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Le cinéma fabrique à fake news. Nous étions samedi dernier à l'occasion du forum France Culture, la Sorbonne, les idées claires, dans le grand amphithéâtre de l'université parisienne, avec le cinéaste Éric Rochant, le concepteur du Bureau des légendes. On vous retransmet aujourd'hui cet entretien de clôture passionnant sur les liens entre fiction et réalité. Ce sera donc à partir de 12h55. Dans la grande table.
Merci, à tout à l'heure. Même si la tendance actuelle des hommes et des femmes politiques à claquer les portes ne devrait plus nous étonner en cette rentrée agitée, le bruit occasionné à chaque fois que l'une d'elles vient à se refermer avec plus ou moins de fracas n'en reste pas moins assourdissant. Après Nicolas Hulot, après Frédéric Dumas, après Bruno Julliard et après Gérard Collomb, c'est donc au tour d'Emmanuel Morel d'annoncer ce matin, dans une interview au journal Le Monde, sa décision de quitter le Parti Socialiste. Sophie Delpont, bonjour.
Bonjour.
Alors, ça n'est pas franchement une surprise. Voilà plusieurs semaines déjà que le député européen en agitait la menace. Restent toutefois les mots cinglants pour justifier cette rupture. Mieux vaut partir plutôt que de se mentir à soi-même et aux autres, explique-t-il dans cet entretien, avant d'ajouter « L'EPS ne correspond plus à l'idée que je me fais du socialisme ».
Oui, ce n'est pas un départ, c'est une scission, revendique l'eurodéputé et ancien candidat au poste de premier secrétaire du PS qui avait réuni près de 19% des voix en mars dernier. Aujourd'hui, je ne pars pas seul, mais avec de très nombreux militants, des centaines de cadres et d'élus, ajoute Emmanuel Morel, qui accuse la direction du parti d'avoir tourné le dos aux valeurs du socialisme. Le PS a perdu de vue et l'objectif et la stratégie. Non seulement ils n'ont pas tiré les leçons du quinquennat calamiteux de François Hollande, mais certains continuent de se réfugier dans le déni jusqu'à voir dans son principal instigateur, un potentiel sauveur. Voilà pour les mots d'Emmanuel Morel. L'eurodéputé dénonce aussi la stratégie du PS à l'échelle européenne, qui a d'abord fustigé la candidature de Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission, au nom de la lutte contre les paradis fiscaux, avant d'appeler à voter pour lui en 2014.
Alors, même s'il laisse encore planer le doute, il est quasiment acquis qu'Emmanuel Morel va désormais rejoindre la France insoumise, ou quand ce départ, Sophie, ne fait que s'ajouter au fond à une longue séquence commencée en 2008, lorsqu'un certain Jean-Luc Mélenchon, le premier, avait quitté le navire socialiste.
Oui, il aura fallu 10 ans à Emmanuel Morel pour suivre son ancien camarade. Alors pourquoi une si longue séquence? Je suis pragmatique. Jean-Luc Mélenchon a fait près de 20% des voix à la présidentielle de 2017. Son mouvement est en dynamique, son programme attractif. Il faut faire avec ce travail de convergence. D'autant que la France Insoumise lui a promis une place éligible sur sa liste pour les élections européennes. On comprend donc cette stratégie d'Emmanuel Morel à la veille du scrutin de mai prochain. C'est aussi et surtout la fin d'un cycle entamé en 2005 avec le non au référendum sur la Constitution européenne, le clivage entre sociaux-démocrates et les tenants d'une Europe sociale.
Merci Sophie Delpont. Même si le scandale de l'amiante semble appartenir au passé, la manifestation aujourd'hui à Paris à l'appel de l'Association nationale des victimes de l'amiante prouve malheureusement qu'il n'en est rien. Autre preuve concrète de ce que l'usure du temps n'efface pas toujours, les héritages malsains. Depuis une semaine en banlieue parisienne, les professeurs du lycée Georges Brassens exercent eux leur droit de retrait, estimant leur santé et celle des élèves menacés par la présence d'amiante. Une initiative qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs celle des enseignants à Jussieu en 1994. Parmi eux, Michel Parego, mathématicien, il fait partie de ceux qui se sont engagés dès les premières heures dans cette bataille de l'amiante, un combat qu'il poursuit donc encore aujourd'hui, 22 ans après, ainsi qu'il l'explique à Florence Turm.
Ça fait maintenant quand même 22 ans qu'on a une réglementation, 22 ans qu'on connaît parfaitement les risques, qu'on aurait dû les prendre en compte beaucoup mieux qu'on l'a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'on aurait dû procéder au retrait de l'amiante, et en particulier au retrait de l'amiante dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges. Il faut savoir qu'en 1995, quand ça s'est beaucoup mobilisé en France, la mobilisation a été précisément la mobilisation des parents pour leurs enfants, déjà à cette époque-là, à la fois à Jussieu, bien sûr, mais dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles.
Aujourd'hui, quels sont les risques? Quels sont les véritables dangers selon vous?
En ce qui concerne les risques dans les bâtiments et plus particulièrement dans les établissements scolaires universitaires, si on prend en termes de santé publique, il s'agit d'un risque qui est faible comparé à d'autres risques. Mais c'est un risque qui est parfaitement inacceptable au sens où il n'y a aucune raison de le prendre. On peut parfaitement retirer l'amiante et on aurait dû le faire depuis fort longtemps. Donc c'est dans ces termes-là que ça se pose. On ne peut pas dire que c'est un risque très important. Mais en revanche, c'est un risque qui est inacceptable.
Comment expliquez-vous que rien ne soit fait justement pour le retrait que vous estimez nécessaire?
Ben là, on touche à un problème typiquement français. C'est-à-dire que, en matière d'amiante dans les bâtiments, on a probablement la meilleure réglementation au monde. Mais derrière, il n'y a pas l'application de cette réglementation, il n'y a pas de contrôle et il n'y a pas de sanction quand on ne fait pas. Et donc, il manque cette volonté-là de faire, tout simplement. Parce que il était normal que, face à un problème comme l'amiante dans les bâtiments, quand on a commencé la première réglementation en 1996, de ne pas faire tout de suite. C'était simplement pas possible. Il fallait graduer les risques, il fallait y aller progressivement. Mais 22 ans après, le problème se pose différemment. Et on voit que les endroits où c'est enlevé ou pas enlevé n'est pas vraiment en fonction des risques. Vous avez des très grands bâtiments, comme la Tour Montparnasse, où le problème de l'amiante, il est là, il est connu, archi-connu depuis plus de 25 ans, et le problème n'est toujours pas résolu. Et donc, c'est vraiment une question de décision. Et puis derrière, la question des pouvoirs publics, est-ce qu'ils contrôlent l'application de la réglementation et est-ce qu'ils imposent des sanctions quand ce n'est pas fait?
Voilà, Michel Parego, membre du comité anti-amiante de Jussieu, répondait à Florence Turm. Autre substance et autre scandale, au terme de 3 années d'enquête, l'Institut fédéral allemand d'évaluation des risques révèle qu'un tiers des substances chimiques les plus utilisées en Europe ne respectent pas la réglementation censée protéger la santé et l'environnement, ou quand les industriels violent les lois européennes en commercialisant des centaines de substances potentiellement dangereuses. Une correspondance à Berlin signée Nathalie Versieux.
32% des 1814 substances chimiques couramment utilisées au sein de l'Union européenne ne sont pas conformes à la réglementation selon l'Institut fédéral allemand d'évaluation des risques, pourtant réputé proche de l'industrie chimique. En cause, le manque d'informations des industriels et des importateurs sur les conséquences potentiellement graves pour la santé ou l'environnement des molécules chimiques utilisées. De fait, les études, notamment sur les animaux, manquent pour un certain nombre de molécules couramment utilisées. Le bisphénol A notamment est régulièrement sur la sellette. La molécule est utilisée dans certains emballages alimentaires, accusée d'effets perturbateurs endocriniens. Pour les instances chargées de la protection de l'environnement, il y a donc violation de la réglementation européenne. La réglementation REACH repose sur le principe du pas de données, pas de marché. En clair, pas d'informations fournies sur la dangerosité ou non des produits, pas d'autorisation de commercialisation. L'Agence européenne des produits chimiques, chargée de l'examen des dossiers, avance pour sa défense croulée sous le travail, un argument qui ne sera pas de nature à rassurer le consommateur.
Sans surprise, c'est donc la Rwandaise Louise Mushikiwabo qui ce matin a pris la tête de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Sa candidature soutenue par la France avait pourtant fait polémique. Nombreux sont ceux qui pointent notamment du doigt le peu de cas que son pays, le Rwanda, ferait à la fois des droits fondamentaux mais aussi de la défense du français. Et puis le profil même de Madame Mushikiwabo est également controversé. Lise Delève nous appelle depuis le sommet de la francophonie à Erevan.
Décomplexée, entreprenante et dynamique, Louise Mushikiwabo est le nouveau visage de l'OIF. Actuelle ministre des Affaires étrangères du Rwanda, c'est une proche de Paul Kagame. Étoile montante de la politique rwandaise, elle était pressentie pour lui succéder. Parfaitement francophone, elle a pourtant fait ses études aux États-Unis grâce à une bourse décrochée juste avant le génocide. C'est à distance que cette Tutsi observe les massacres perpétrés dans son pays. La plupart des membres de sa famille sont morts. Après ses études, elle reste à Washington, ville de pouvoir, et devient interprète. Il y a 10 ans, elle décide de rentrer au Rwanda et est nommée ministre de l'Information. Diplomate habile et implacable, elle verrouille les médias, ce qui pose question aujourd'hui à l'OIF. Le Rwanda ne brille pas par son respect de la démocratie et Louise Mushikiwabo était considérée jusqu'à présent comme numéro 2 du régime. S'il fallait évaluer dans chaque pays membre la question des droits de l'homme, je pense que le Rwanda serait bien placé, a-t-elle souligné dans une interview accordée avant son élection. La nouvelle chef va-t-elle combattre les États qui bafouent la démocratie maintenant qu'elle représente la francophonie? Elle confie que pour elle, sa première mission à la tête de l'OIF, c'est la jeunesse africaine. Avec sa démographie dynamique, l'Afrique représentera 85% des francophones en 2050. On souhaite que sur la question de la jeunesse, Louise Mushikiwabo provoque une sorte d'électrochoc, raconte un proche de l'Élysée. Paris a été l'un des premiers soutiens de la Rwandaise. Cette dernière va-t-elle aider à normaliser les relations tendues entre la France et son pays? L'Élysée admet que cette nomination a fait avancer le dialogue entre Paris et Kigali, mais le chemin est encore long. Mes obligations se situeront d'abord dans la francophonie, a prévenu Louise Mushikiwabo.
Et puis toujours s'agissant de l'OIF, l'Arabie Saoudite a finalement décidé hier de retirer sa demande d'adhésion à l'Organisation internationale de la francophonie. Il faut dire que sa candidature avait déjà suscité de vives critiques, notamment en raison de ces violations répétées des droits de l'homme, des critiques qui se sont évidemment encore accentuées ces derniers jours avec la disparition mystérieuse en Turquie du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. À ce titre d'ailleurs, dans son édition à paraître aujourd'hui, le Washington Post prévient que la Turquie aurait prévenu les autorités américaines qu'elle disposait d'enregistrements audio et vidéo prouvant que le journaliste a été tué à l'intérieur du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Toujours en Turquie, c'est aujourd'hui qu'un tribunal doit statuer sur la libération ou non du pasteur américain Andrew Brunson, poursuivi pour activités terroristes et espionnage, et dont la détention puis l'assignation à résidence sont depuis au cœur d'une grave crise diplomatique et économique entre Ankara et Washington. Et à en croire plusieurs médias américains, eh bien le pasteur pourrait être libéré aujourd'hui au terme d'un marché conclu entre les deux capitales. Anne Handlauer nous appelle d'Istanbul.
Parmi tous les sujets qui empoisonnent depuis des mois les relations turco-américaines, l'affaire Brunson arrive en tête de liste alors qu'elle n'a pas en soi d'importance stratégique. Andrew Brunson est un pasteur évangélique américain qui vit et prêche depuis plus de 20 ans dans la ville égéenne d'Izmir. En octobre 2016, 3 mois après la tentative de putsch contre le président turc Recep Tayyip Erdogan, Andrew Brunson est arrêté. La justice le soupçonne alors d'être lié au réseau du prédicateur Fethullah Gulen, le cerveau désigné du putsch. Incarcéré en décembre de la même année, Andrew Brunson voit les charges s'accumuler contre lui, sur la foi notamment de témoignages anonymes. Le pasteur se retrouve jugé non seulement pour des liens présumés avec le terrorisme, les réseaux de Gulen et le PKK kurde, mais aussi pour espionnage. Il risque 35 ans de prison. Son placement en résidence surveillée à l'issue de la dernière audience en juillet n'a pas apaisé la colère de l'administration américaine. Au contraire, à l'époque, Donald Trump a accusé son homologue turc de n'avoir pas respecté un accord prévoyant sa libération. Le président américain a ordonné dans la foulée le doublement des droits de douane sur l'aluminium et l'acier importés de Turquie, provoquant une chute brutale de la monnaie turque, la livre. L'affaire du deal manqué incite donc à la prudence, alors que des médias américains affirment qu'un nouvel accord aurait été trouvé permettant la libération d'Andrew Brunson ce vendredi. Si tel est le cas, un apaisement serait en vue dans la relation tendue entre Ankara et Washington.
Voilà un chiffre qui pourrait bien alimenter un peu plus encore les tensions commerciales entre Pékin et Washington. L'excédent commercial de la Chine avec les États-Unis s'est creusé le mois dernier pour atteindre un montant record, 34,13 milliards de dollars, ou quand la croissance des exportations chinoises continue de s'accélérer en dépit donc de l'instauration de droits de douane avec Washington. Après le passage de l'ouragan Michael, lequel a tué au moins 6 personnes aux États-Unis et laissé dans son sillage images des paysages de désolation. Des milliers de soldats et de secouristes s'activent à présent pour déblayer les rues, des débris éparpillés sur le sol boueux, rétablir le courant, mais aussi rechercher toujours et encore d'éventuelles victimes piégées sous les décombres. Rétrogradée en tempête tropicale, Michael a touché hier soir la Virginie avec d'importantes précipitations pouvant conduire à de dangereuses inondations. Il devrait ensuite atteindre l'Atlantique. Augmentation du salaire minimum, indexation des retraites sur l'inflation, mais aussi taxes sur les transactions financières et hausse d'impôts pour les contribuables les plus fortunés. Hier, le gouvernement socialiste espagnol est parvenu à un accord de principe avec son principal allié Podemos sur un budget anti-austérité pour 2019. Cet accord sera présenté à Bruxelles la semaine prochaine, mais pour être adopté au Parlement, ce budget aura aussi besoin des voix des nationalistes basques et des indépendantistes catalans pour atteindre la majorité requise et ainsi passer outre l'opposition de la droite et du centre. Et puis, toujours en Espagne, voilà que le chef du gouvernement, Pedro Sanchez, lequel pensait avoir signé une importante victoire politique et symbolique en obtenant que les restes de Franco soient déplacés de son mausolée, se retrouve à présent pris au piège. Alors que la dépouille du dictateur devait être transférée vers un cimetière privé, voilà que deux petits-fils de l'ancien dictateur réclament désormais que les restes de leur aïeul soient enterrés dans la grande cathédrale de l'Almudena, autrement dit en plein cœur de la capitale. C'est une correspondance de Marie-Hélène Ballestero.
Le chef du gouvernement socialiste Pedro Sánchez semblait sur le point d'exaucer son vœu, exhumer les restes du dictateur Franco. Mais il n'avait pas compté sur ce nouvel obstacle, un coup de maître selon les experts, orchestré par les petits-enfants du dictateur. Désormais, l'exécutif espagnol se retrouve bloqué car légalement, il ne peut pas empêcher la famille Franco de transférer la dépouille du caudillo vers la cathédrale de l'Almudena. D'autant que la famille dispose d'un caveau là-bas. La fille de Franco l'avait acheté en 1987. Elle y est d'ailleurs enterré depuis le mois de décembre. Légalement donc, le gouvernement Sánchez ne peut rien faire. Et l'église se retrouve coincée également. L'archevêque de Madrid, Carlos Osoro, proche du pape, s'est prononcé sur la question la semaine dernière. D'après lui, on ne peut pas empêcher un chrétien d'enterrer un parent dans une crypte qu'il a préalablement achetée. C'est un véritable casse-tête pour le gouvernement espagnol et pour l'église, car la cathédrale de l'Almudena est un lieu emblématique, très touristique, situé en plein cœur de la capitale, juste en face du palais royal. L'affaire est tellement embarrassante que la numéro 2 du gouvernement Sánchez, Carmen Calvo, a décidé, selon la presse espagnole, de faire appel au Vatican. Elle doit se rendre à Rome à la fin du mois pour s'entretenir avec le bras droit du pape, Pietro Parolin. Carmen Calvo a assuré hier que sa visite au Vatican n'avait rien à voir avec l'exhumation de Franco.
Au Brésil, les sondages se suivent et se ressemblent dangereusement selon la dernière enquête d'opinion réalisée depuis le premier tour. Jair Bolsonaro est crédité de 58% des intentions de vote contre 42% pour son adversaire de gauche, Fernando Haddad. L'apologiste de la dictature a beau effrayer tous les démocrates, pour autant, aucun front républicain ne semble pour l'heure en passe de se constituer face aux candidats d'extrême droite. Et puis en Allemagne, cette fois-ci, l'enquête d'opinion publiée hier démontre, s'il valait encore s'en convaincre, combien le bloc conservateur CDU-CSU de la chancelière et le parti social-démocrate SPD reculent dans les intentions de vote. 26% pour les premiers, 15% pour les seconds, soit le niveau le plus bas jamais mesuré pour une coalition, et ce à 3 jours d'élections régionales cruciales en Bavière. Comme chaque vendredi, nous ouvrons à présent notre page consacrée à l'Europe. Invité aujourd'hui, Joe Leinen, député allemand du Parti social-démocrate, SPD. Et pour vous interroger depuis Bruxelles, Annabelle Grolier, bonjour à tous les deux.
Bonjour Monsieur Leinen.
Bonjour.
Alors cette semaine à Luxembourg ont eu lieu des négociations difficiles pour se mettre d'accord sur un objectif de baisser de 35% les émissions de CO2 des véhicules légers à l'horizon 2030. 5% de moins que ce que préconisait le Parlement européen. Un compromis quand même concédé à l'Allemagne, partagé entre la volonté de réduire la pollution et puis évidemment préserver la compétitivité de son secteur automobile. Joe Leinen, comment avez-vous accueilli cet accord?
Alors, beaucoup de parlementaires européens étaient déçus, bien sûr, parce que dans nos débats, on a eu des propositions de réduire le CO2 jusqu'à 2030 à 50%, et notre 40% à la fin dans la plénière à Strasbourg, c'était déjà un compromis entre les uns et les autres. Le secteur transport doit décarboniser, c'est tout à fait clair. Autrement, on ne peut pas arriver à nos objectifs du traité de Paris pour sauver le climat. Alors, l'industrie est en retard. Ils sont beaucoup en retard lorsqu'on regarde ce que fait la Chine et d'autres producteurs dans le monde.
Et oui. Et pensez-vous qu'entre l'environnement et l'économie, il faut forcément choisir?
Voilà, je crois que nous avons donné un message très clair à l'industrie. Ils doivent avoir clarté pour leur planification, pour leurs investissements. Et soit que c'est 35 ou 40, je crois, à la fin, entre le Conseil des ministres des pays membres et le Parlement européen, on va se trouver vers 37,5 ou quelque chose comme ça. C'est quand même une chose ambitieuse et il y a beaucoup d'investissements qui doivent se faire dans les années prochaines.
Oui, et pendant ce temps-là, aux Pays-Bas, une ONG, Urgenda, a attaqué le gouvernement Batav en justice pour ne pas avoir assez activement protégé les citoyens au regard des engagements internationaux sur le climat. C'était une première mondiale, elle a obtenu gain de cause. Pensez-vous, Joe Linen, que les citoyens, la société civile, doit maintenant prendre les choses en main pour réellement se protéger?
Oui, on voit très clairement que les gouvernements sont trop tardifs, ils font trop de compromis et surtout la jeunesse, la future génération a très peur que le changement climatique va influencer leur vie. Et je peux bien comprendre que tous les instruments sont utilisés d'aller vers les cours et on a vu que beaucoup des cours ont fait des décisions positives vers la protection de l'air, de l'eau et maintenant aussi pour la protection du climat.
Oui, alors dernière question, John Linen. Sont organisées ce week-end en Bavière des élections régionales. Le parti d'extrême droite, l'AFD, est donné favori. Est-ce pour l'Allemagne inquiétant et pour l'Europe surtout, est-ce inquiétant?
Alors on va en effet avoir un bouleversement de la situation en Bavière qui était gouvernée pendant 50 et 60 ans par la CSU. Et les chiffres qu'on peut entendre, c'est désastreux pour eux. Et dans ce vacuum vont d'autres. D'un côté les Verts, mais aussi la AfD, comme vous l'avez mentionné. Et ça nous fait tous des soucis qu'un parti nationaliste et populiste peut avoir des résultats comme ça. Et on voit que l'Allemagne partage maintenant le destin de beaucoup d'autres pays en Europe où le nationalisme est en avant-garde, est en train de gagner. Et je crois que les autres partis doivent se faire des pensées et doivent vraiment proposer aux citoyens une alternative qui est meilleure.
Mais est-ce qu'on l'entend ça au Parlement européen? Est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on s'y prépare?
On se prépare pour les élections européennes en mai 2019. Alors ça va être le grand test pour l'Europe. Est-ce que les populistes, les nationalistes vont aussi gagner les européennes? Et je vois que les partis traditionnels étaient un peu trop confortables. Il faut lutter, il faut avoir des messages très clairs, pourquoi on a besoin de l'Europe, pourquoi on a besoin de la démocratie, qu'est-ce qu'on fait pour le bien-être des gens, des jeunes comme des aînés. Et là, j'espère que c'est un petit choc qui mobilise aussi les autres partis démocratiques. Et je veux pas laisser perdre ni la démocratie, ni l'idée d'une Europe unie par la menace des nationalistes.
Et vous pensez que ce serait possible?
Bon, je vois que les citoyens en majorité sont encore loyaux à la démocratie et aux valeurs que nous partageons, mais ce n'est plus évident. Hein? Ce n'est plus évident, il faut lutter. Parce que les soupçons, la critique, même l'agressivité contre le système démocratique est en train de grandir. Et on a un danger, un grand danger. On a vu comment ça a commencé le siècle dernier. Et je veux dire, avec François Mitterrand au Parlement européen à l'époque, le nationalisme, ça veut dire la guerre à la fin. Et là, il faut être clair où ça va aboutir. si les nationalistes les uns des autres vont encore avoir plus de succès qu'aujourd'hui.
Et merci Joe Leinen, député allemand, je le rappelle, du Parti Social-Démocrate SPD, et également à Annabelle Grolier. Un mot rapide du temps pour aujourd'hui, quasi estival, avec du soleil et des températures exceptionnellement douces pour la saison. C'est la fin de ce journal, il était réalisé par François-Charles Domergue à 18h. Vous avez rendez-vous avec Tara Schlegel pour le prochain journal de la rédaction.